25 mai 2018.
Harvey
Weinstein, les menottes au poignet. Le producteur qui régnait sur le monde du cinéma est ressorti du palais de justice de New York, inculpé pour 2 agressions sexuelles. Le début d'une longue procédure, car une centaine de femmes l'accusent. Le producteur déchu a été remis en liberté contre une caution d'$1 million cash, le port d'un bracelet électronique et la remise de son passeport aux autorités.
C'était il y a presque un an, le 5 octobre 2017. La presse américaine révèle l'affaire Weinstein, le producteur tout-puissant qui a longtemps fait et défait les carrières à Hollywood, est accusé d'avoir abusé de dizaines d'actrices et de les avoir payées en échange de leur silence. Le New York Times et le New Yorker recueillent des témoignages nominatifs et circonstanciés. Harvey Weinstein est licencié, banni de Hollywood, de Cannes et de tous ses anciens royaumes. Cette affaire a dépassé le seul cadre du cinéma américain. Partout, la parole des femmes se libère. Elles témoignent sous la bannière « Balance ton porc » et « MeToo ».
Solidarité avec les femmes du monde entier.
En France, le milieu du cinéma est longtemps resté muet. Peu d'actrices prennent la parole. Au contraire, Catherine Deneuve et d'autres femmes célèbres signent une tribune pour défendre la liberté d'importuner. Mais en mai dernier, une jeune comédienne porte plainte pour viol contre le réalisateur Luc Besson.
On n'a pas couché ensemble, il m'a obligée de subir des choses, c'est pas pareil. C'est horrible parce que l'agresseur il est présumé innocent jusqu'au moment qu'on prouve le contraire. Mais moi, je suis présumée une prostituée, une menteuse, une femme vénale. Mais c'est le monde à l'inverse.
D'autres grands noms du cinéma français sont également visés par des plaintes, ce qui fait grincer des dents certains producteurs.
Maintenant, c'est Gérard Depardieu, ça a été Philippe Cobert, Luc Besson. Bon, ça, il faut pas devenir anti-homme. Hein.
L'impossible MeToo du cinéma français, c'est un reportage de Valérie Cantier et Christine Siméon.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Alors là, nous sommes devant le cabinet d'avocats de maître Karine Diebold. Karine Diebold défend notamment la comédienne Sande Van Roy qui a déposé plainte contre Luc Besson pour viol et agression sexuelle.
C'est au premier étage ?
En fait, c'est là.
Sande Van Roy a joué dans Valérian, réalisé par Luc Besson, et dans Taxi 5, produit par Luc Besson. La comédienne l'accuse de l'avoir agressée sexuellement à de nombreuses reprises pendant 2 ans, jusqu'à cette nuit du 17 mai dernier dans un palace parisien. Luc Besson dément catégoriquement ces accusations.
Okay, on en discutera peut-être une autre fois.
C'était pas du tout prémédité, c'était pas un jour je me suis dit bah tiens d'ici 3 semaines je vais déposer plainte contre lui, pas du tout. C'est juste que la soirée au Bristol c'était extrêmement violent, c'était dangereux, moi j'ai senti j'étais en danger de vie, alors du coup je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose. J'ai appelé la police, ils sont venus, je voulais pas dire le nom de monsieur Besson parce que je voulais pas les représailles. J'étais pas du tout dans l'intention de déposer plainte tout de suite. Même j'ai fait une déclaration au début. Je refusais de déposer plainte, mais après ça a fuité dans les médias que j'avais déposé plainte, même avant de déposer plainte. Alors, du coup, j'étais un peu pris en otage par les circonstances. Et là, je me suis dit, il faut aller jusqu'au bout.
Vous dites, d'abord, je voulais pas donner son nom, puis je voulais pas témoigner, je voulais pas porter plainte. Pourquoi ?
Vous aviez peur de quoi ? Peur de représailles, de sanctions, parce qu'en permanence, il y avait un système de récompenses et de sanctions, une caresse, une claque, tout le temps. Dès que je faisais un truc qui n'entrait pas dans ce qu'il attendait de moi, il y avait une punition au niveau de ma carrière, ou une punition dans le sens de me rabaisser, de faire des commentaires négatifs sur mon travail, ma physique, tout. Alors j'avais très très peur qu'il allait me punir, ce qui est bien sûr le cas, parce que bien évidemment, je vais être coupée de son prochain film, Anna. Moi, j'adore mes scènes dans Anna, c'est très bien, c'est du très bon travail. Même lui était d'accord, mais je sais qu'il va me couper. Ça, c'est une sanction.
Comment ont été les réactions depuis que vous avez témoigné et que vous avez porté plainte ?
Au début, il y a beaucoup de gens qui ont dit « retire ta plainte ». Et souvent, j'avais ce genre de réflexion par beaucoup de gens dans mon entourage. Toutes les actrices passent par là. Ça, c'est dans le top 3. Ah, c'est quand même dingue, tu joues dans taxi, c'est énorme. Du coup, on se concentre tout de suite sur le côté glamour. Mais toi, pendant 2 ans, tu subis des choses horribles.
Un taxi, le long du port, devine combien ?
140.
Il est passé, ouais. Ensuite, il a mis la seconde. 217 km/h, mon pote.
Vous l'avez chopé ?
Oui, évidemment, ils ont appelé l'armée de l'air. Je pense à cette vitesse.
Hey, taxi !
Alors, pour revenir sur ce qui a été écrit sur vous, il a notamment été écrit que vous entreteniez une relation avec Luc Besson, une relation amoureuse. Est-ce que oui ou non, vous avez été en couple avec Luc Besson ?
Blarc. ça me rend malade parce que c'est quoi être en couple ? Être en couple, c'est partager des choses. Moi, je partageais le travail. Il y avait beaucoup de travail et des sessions de travail où j'ai rien à lui reprocher parce que ça se passait bien, mais il y avait aussi des sessions de travail qui n'étaient pas des sessions de travail, c'était des sessions de torture pour moi, j'en avais pas envie, il savait que j'en avais pas envie, et il y avait cette emprise là aussi qu'il me faisait culpabiliser, et aussi quand il y avait des demandes sexuelles de sa part, ça me blessait en plus parce que il y avait ce rapport papa-fille où j'avais de l'affection pour lui, mais ce n'était pas de l'amour. On ne peut pas être amoureuse d'un homme qui abîme notre corps. Ce n'est pas possible, qui nous donne envie de vomir. Parce que même j'ai vomi plusieurs fois quand il me demandait de faire des choses très humiliantes. J'ai pleuré. Du coup, si on me dit que c'est une relation d'amour, ça me blesse quelque part. Parce que ça implique aussi que j'étais consentante. Mais on n'a pas couché ensemble, il m'a obligée de subir des choses, c'est pas pareil.
Et tout ça pendant 2 ans ?
Oui. Oui, mais on dit, mais attends, ça dure 2 ans, pourquoi tu pars pas ? C'est un peu la réflexion que j'entends, mais ils comprennent pas. Pendant 1 mois, il se passe rien, il y a une base de confiance. Ensuite, il y a un tournage, on est stressé parce qu'il y a beaucoup de pression sur une actrice, surtout quand on débute, parce que dès qu'on fait une erreur, on se fait jeter. Et quand Luc Besson te jette d'un film, ben, c'est un peu la fin de ta carrière. Alors du coup, on marche sur les œufs. Et après, quand il y a des agressions sexuelles, c'est pas tous les jours. Ça arrive et après il est très gentil, il fait des efforts, il t'aide avec ta carrière, il m'aide à écrire des choses, il me corrige, il me fait évoluer professionnellement et il redevient très gentil. Il me donne à manger, il y a des choses comme ça. Alors du coup, comme victime, on est déstabilisé, on se dit « mais attends, peut-être lui, il est amoureux de moi ». Peut-être il est sincère, peut-être moi je suis débile et peut-être moi je suis superficielle parce que je ne suis pas amoureuse de lui et peut-être il fallait l'être parce que Mario, Mila Jovovich, c'est quand même des très bonnes actrices, elles étaient amoureuses de lui, alors peut-être moi je ne suis pas une bonne actrice, il y a une culpabilité tout le temps. Moi je n'ai pas couché pour avoir des rôles, j'avais des rôles. Jessica Rabbit dans Valérian, c'est un tout petit rôle, mais j'ai fait un casting. Taxi, j'ai fait un casting, et voilà. Mais après, il ne faut pas oublier que M. Besson, il a le pouvoir de blacklister, comme on appelle ça, il a le pouvoir de dire « Ah oui, tu veux prendre elle ?»« Bah, moi, je trouve qu'elle n'est pas si... Non, je ne suis pas d'accord. » Alors, on le sait, on est conscient de ça, mais ça ne veut pas dire que je suis une des actrices qui couche pour avoir un rôle. C'est horrible parce que l'agresseur, il est présumé innocent jusqu'au moment qu'on prouve le contraire. Mais moi, je suis présumée une prostituée, une menteuse, une femme vénale, une femme facile, une salope. Il y a toute une liste d'accusations et moi, il faut que je prouve le contraire. Mais c'est le monde à l'inverse.
Est-ce que vous pensez que le fait que le mouvement MeToo se soit instauré l'année dernière a fait que vous avez porté plainte plus, entre guillemets, facilement ? C'est-à-dire, si MeToo n'avait pas existé, est-ce que vous auriez quand même porté plainte ?
Je ne sais pas si j'aurais porté plainte, mais je suis sûre que l'affaire Harvey Weinstein et MeToo, ça a beaucoup influencé aussi mes démarches. Aussi que j'ose parler aujourd'hui, que j'ose me défendre, que j'ose déposer une plainte, c'est grâce à leur mouvement, parce que ça a libéré la parole. Quand on voit des femmes comme Angelina Jolie qui osent dénoncer quelqu'un qui fait des choses horribles, du coup on a le courage, on dit si elle peut faire ça, moi petite actrice à côté, ok, je peux y aller aussi.
Est-ce que vous allez continuer à être actrice ?
Ah oui, je vais continuer à être actrice. Parce que si là j'arrête d'être actrice, ça montre quelque part que bah, ils ont gagné. Ça montre qu'on ne peut pas être actrice si on ne tolère pas le viol, si on ne tolère pas des agressions sexuelles. Je ne veux pas ça. C'est pour ça que je vais prouver qu'on peut continuer et ça peut aller mieux. Je vais me battre pour ça. Mais peut-être pas en France tout de suite, parce que là, tout est bloqué.
Je suis Karine Durieux-Diebont, avocate à Paris, qui défend dans de nombreux dossiers des victimes de violences sexuelles. Je représente Sand Van Hooy, qui est la plaignante dans ce dossier-là. On n'a pas encore beaucoup de communication avec les services de police, donc je ne sais pas précisément à quel stade en est l'enquête, mais en tout cas, ils essayent d'investiguer sur la plainte et rechercher d'autres éventuelles victimes. Et dans ces dossiers-là, c'est très très important. Il est particulièrement important que la plainte d'une victime soit appuyée par des témoignages ou des plaintes d'autres victimes. Et je dis bien témoignages dans la mesure où une victime peut très bien se manifester auprès des autorités policières sans déposer plainte, mais simplement apporter son témoignage en appui de la plaignante initiale. Et lorsqu'il y a plusieurs victimes qui se manifestent dans un dossier, ça rend ce dossier extrêmement fort. Donc on a des chances d'aboutir. Et c'est ce qui est arrivé dans un autre dossier que j'ai pu mener à bien, contre un agent artistique. J'avais une première victime qui avait déposé plainte. Comme ces dossiers se passent dans une certaine intimité, dans un huis clos, évidemment, il n'y a pas toujours les preuves matérielles nécessaires pour poursuivre l'agresseur. Donc ce dossier a été classé sans suite dans un premier temps. Et quelques temps plus tard, il y a une autre victime, elle ne se connaissait pas, qui s'est manifestée auprès des autorités policières et qui a également déposé plainte. Et de ce fait, ils ont ressorti la première plainte qui était classée sans suite et nourrie de ces deux plaintes, ils ont pu poursuivre l'agresseur qui a finalement été condamné. Donc c'est des dossiers qui s'auto-alimentent et généralement les agresseurs sexuels, quels qu'ils soient, mais surtout dans ces milieux du spectacle, hein, c'est toujours une histoire de pouvoir quelque part sur des jeunes actrices notamment. C'est un comportement qui est intégré par l'agresseur. Donc généralement, il ne s'est pas contenté d'en agresser une seule. Et souvent, dans ces dossiers-là, il y a plusieurs victimes. Alors, il y a aussi des préjugés. C'est-à-dire que moi, quand je discute de ce dossier avec les gens, on a des préjugés absolument incroyables qui remontent au Moyen-Âge. Parfois, on a même l'impression, le sentiment qu'on restaure une sorte de droit de cuissage. Moi, on m'a quand même déjà dit... Ah ben oui, mais tu sais, moi, qu'on m'ait touché à tel endroit, etc., les cuisses, les seins, bon, j'en ai pas fait toute une histoire, hein, ça se fait. On va pas déposer plainte parce qu'on est tripoté. Donc il y a une sorte de tolérance du milieu à cet égard. Et également, c'est, ah ben oui, mais les actrices, elles le veulent bien, elles couchent pour avoir des rôles. Alors d'abord, c'est des préjugés sur les jeunes actrices, pour moi, me paraissent absolument insupportables. Quand je leur dis « Et si c'était ta fille, est-ce que tu considérerais que c'est normal de dire ça ? Ta fille, elle veut devenir actrice, tu penses que nécessairement, elle veut coucher pour avoir un rôle ?» Et là, on dit « Ah ben non, ben, pas ma fille, non, je n'ai pas éduqué comme ça, etc. » Ben non, ben, c'est pareil pour toutes.
Selon son avocat, Luc Besson nie catégoriquement avoir violé la jeune comédienne. Il précisait en juillet dernier que le cinéaste se tenait à la disposition de la police.
Au revoir, merci.
À ce jour, l'avocat n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Une ex-directrice de casting vient d'être entendue par les enquêteurs. Elle affirme elle aussi avoir été agressée sexuellement par Luc Besson.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Eh bien, je suis Véronique Attali et je suis comédienne, actrice.
Vous, que vous est-il arrivé exactement dans votre vie de comédienne ?
Effectivement, moi, à 30 ans, j'ai été approchée par un réalisateur qui était connu. Il m'a invitée à Cannes. Et il m'a invité dans sa chambre, et ce qui se fait souvent à Cannes, effectivement, puisqu'il n'y a pas de bureau, donc pour me parler, c'était pour une pièce au théâtre qui devait se faire 6 mois plus tard. Donc il m'a reçu dans sa chambre, et il était nu, sous son peignoir. Alors je ne me suis pas fait violer, bon, mais j'ai tellement été dans un état de choc que je n'ai pas... rien dit, j'étais stupéfaite et je suis partie en courant. Et puis après, il m'en a pu parler. J'avais peur, mais je n'en ai parlé à personne, je ne savais pas quoi faire. Donc nous avons commencé les répétitions et là, j'ai subi un harcèlement moral d'une extrême violence. Pendant une journée, par exemple, il m'a fait répéter une phrase, « Bonjour ». Et ce « Bonjour » n'allait jamais. Je devais aller tourner... avec Claire Denis au Cameroun, au début des répétitions, il me l'a tout de suite interdit, alors que ça avait été convenu que je devais le faire. Je ne partais que 8 jours. C'était une époque où moi, je tournais énormément, je faisais beaucoup de théâtre, beaucoup de tournages. Donc, entre guillemets, ma carrière démarrait, et démarrait très bien. Et donc, cette violence que j'ai subie pendant toutes les répétitions, il y avait des comédiens connus, Vladimir Yordanov... Personne n'a réagi, il m'a complètement cassé. 10 jours avant la première, j'ai abandonné le spectacle. Après ça, la profession pensait que c'était moi qui n'avais pas assumé le rôle. J'ai été en dépression et j'ai fait 14 ans d'analyse. Et j'ai un peu quitté la profession puisque j'ai fait du documentaire après. J'ai fait 10 ans de documentaire.
Vous avez raconté aussi autre chose, un autre épisode d'agression sexuelle.
Ouais. Sur le film d'Yves Robert, c'est pas vraiment... Enfin, je ne sais plus comment qualifier ces choses-là. C'était l'été 36, un film qui a été énormément diffusé, qui a beaucoup marché. J'avais un rôle plutôt important. J'étais la fiancée de Jean-Pierre Bouvier. On avait une scène de baiser. Et Yves Robert parle avec Jean-Pierre Bouvier, qui était un des acteurs principaux. Je ne participe pas à la discussion. On tourne la scène et l'acteur m'embrasse complètement, avec la langue, et j'étais tétanisée. Ça ne se fait pas. Enfin, je veux dire, on fait une scène de baiser au cinéma, on ne met pas la langue, si je veux être extrêmement précise. Et c'était une scène qui était extrêmement longue. J'étais au bord de l'étouffement, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et Yves Robert a trouvé ça que c'était magnifique, puisque je jouais un personnage extrêmement timide, très timoré. Et c'était ce premier baiser était quelque chose de très important pour moi, effectivement, c'était très important parce que j'ai trouvé ça d'une extrême violence et tout le monde a rigolé, quoi. Et j'ai dit, je l'ai regardé, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il me dit, bah c'est Yves Robert qui me l'a demandé. Mais pff, c'était complètement normal, je veux dire, il y avait vraiment pas de quoi s'énerver.
Oh là, être là-bas, pas de ça chez nous. On arrive vierge au mariage chez les petites gens.
Allez-y, mes beaux amoureux. Du moment que vous ne nous faites pas un moment prime. Maladroit comme t'es.
Alors, peut-être que Catherine Deneuve, qui a fait cette grande citation dans Le Monde en disant « Mais on a le droit de se faire draguer aussi », peut-être qu'elle aurait considéré ça comme une drague. Mais sauf que moi, non. J'ai trouvé ça extrêmement violent. Voilà, c'est pas du viol. Mais c'est sans arrêt des petites histoires, des micro-événements qui font que quand on est jeune actrice et qu'on a beaucoup de sollicitations et beaucoup de rôles, on ne sait plus comment réagir. Et je pense qu'il y a un avant Weinstein et un après.
Parce que justement, ce que vous racontez là, vous n'aviez pas raconté avant hashtag MeToo.
Non, 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 j'ai jamais raconté ça à personne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, Véronique Attali, j'ai 60 ans, j'ai plus peur. Je m'en fous, quoi. Je suis assez en colère, moi, sur ce métier, sur tout ce qui m'est arrivé. Je veux faire bouger les lignes, je veux changer les codes.
Solidarité avec les femmes du monde entier.
MeToo, balance ton porc, autant de hashtags sur les réseaux sociaux qui sont devenus des cris de ralliement. Elles étaient plusieurs centaines ce dimanche, place de la République à Paris, pour manifester contre le harcèlement et les abus sexuels.
Bonjour, Angeline Barthes, je suis secrétaire générale adjointe de la Fédération CGT Spectacle et j'ai contribué avec le collectif Femmes Mixité à la mise en place du blog L'Envers du Décor.
On va dans votre bureau?
avant l'affaire Weinstein, on a lancé ce blog au moment du Festival d'Avignon l'année dernière, en 2017. Parce qu'en fait, le blog est là pour recenser des témoignages, mais il est là aussi pour donner des clés, des outils aussi aux victimes et aux témoins pour pouvoir agir. Donc on a recueilli un certain nombre de témoignages, puis ça s'est un peu amenuisé jusqu'à l'affaire Weinstein, où effectivement, de nouveau, on a eu une nouvelle vague de témoignages. Peut-être que le plus intéressant, en fait, serait que je vous lise directement quelques extraits de témoignages de ces femmes qui travaillent dans les coulisses du cinéma ou du spectacle. Donc c'est une habilleuse qui témoigne. Le rôle principal d'un très gros film français prend malin plaisir à jeter ses fringues par terre quand je viens les chercher. Et là, il me dit, l'air mauvais, « Mets-toi à quatre pattes et ramasse. » Je n'ai jamais été très douée niveau répartie et j'avais peur d'être virée. Je n'ai pas osé lui tenir tête. Il ne m'a jamais touchée, mais il m'a humiliée quotidiennement pendant 3 bonnes semaines. J'ai l'estomac qui continue de faire de nœuds quand j'entends sa voix à la télé. Réunion de production sur un autre film, le réalisateur qui dit « Bon, pour les habilleuses, ce serait bien qu'elles soient baisables. Hein. » Gros moment de solitude.
Ce qui est important sur ce blog, c'est qu'il n'y a pas que des comédiennes qui témoignent. Il y a tout corps de métier.
Tous les métiers, en fait, sont touchés parce qu'effectivement, à la fois, il y a le secteur, un secteur quand même assez particulier, mais il y a aussi la question de la précarité des contrats, il y a la question également des temps de production qui sont très courts, donc après tout, on met une main aux fesses, c'est pas grave, de toute façon, la personne, on la reverra pas, puis peut-être même qu'elle se fera virer de la production, si elle se plaint, etc. Donc effectivement, il y a à la fois le rapport qu'on a les uns les autres, on est un secteur qui est convivial, on se fait la bise, on se tutoie, il y a beaucoup d'affectifs aussi dans ces milieux-là. Donc ça en fait un secteur très très particulier. On est aussi dans un secteur qui se protège de lui-même. On l'a vu dans certains procès ou au moment de certaines accusations. On a un secteur qui s'auto-protège. Pour nous, c'est d'autant plus quelque chose à dénoncer qu'on est un secteur qui est censé ouvrir les yeux des gens, qui est censé participer à leur émancipation, voilà, qui est censé montrer les réalités du monde, faire avancer, faire progresser la démocratie, les libertés. Et finalement, que ces comportements aient lieu dans nos secteurs d'activité, c'est encore plus scandaleux. Il y a un autre témoignage qui, je pense, est intéressant. C'est une régisseuse qui raconte l'époque où elle était stagiaire, qui raconte sa fin de stage et avec une compagnie théâtre. L'équipe s'était attachée à moi, je me suis attachée à eux. Je leur propose de faire une virée tous ensemble dans un joli port de ma région. Ils étaient 4 à accepter l'invitation, j'avais une voiture. Le jour J, au point de rendez-vous, il n'y a eu qu'une seule personne. Le seul régisseur général m'attendait. Je me souviens que mon instinct m'a tout de suite signifié que ça sentait mauvais, ce plan. Je ressens encore mon malaise tout le long de la route, le stress, le fait que je n'avais aucun plaisir à être seule avec ce type qui avait 20 ans de plus que moi. Aujourd'hui, je ne sais plus de quelle manière j'ai refusé ses avances, mais je l'ai repoussé. Alors j'ai eu le droit à ce chantage pitoyable, minable, si désolant. J'aurais pu te faire monter à Paris, mais maintenant tu te démerdes. Hein. Évidemment, j'ai rien dit à mon super directeur de stage. Évidemment, j'ai pleuré de honte toute la soirée. Et évidemment, il m'a pourri les derniers jours de stage. Et j'ai commencé ma carrière avec cette colère et cette rage envers ma condition de femme au travail et une furieuse détermination à ne pas me laisser dominer. Aujourd'hui, je lutte. Je les excite moins, je suis plus vieille, mais régulièrement, je deviens féroce.
Sois innocente et pure, loin de leurs rêves obscurs. T'as du talent, c'est sûr. Donc ferme la et suce. T'aimerais juste une promotion, sus. Avoir un rôle dans un film, sus. Dans la misère, dans le luxe, sus. Plus t'arrêtes de jouer la victime, sus, sus, sus. Balance ton porc, ouais. Mareuse, balance ton porc. Balance, ouais, balance ton porc, ouais. Mareuse, balance ton porc.
Monsieur Polanski, dans quel état d'esprit
êtes-vous? Non, 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 pas comme ça, Monsieur Polanski. Monsieur, madame, à votre droite, s'il vous plaît. À votre droite, s'il vous plaît.
31 octobre 2017, rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque française à Paris. Les Femmes manifestent contre le réalisateur poursuivi aux États-Unis pour le viol d'une adolescente en 1977.
Les films, ils sont perpétuels, en dépit de certains zinzins.
Polanski qualifie ce jour-là les manifestantes de zinzins.
Je m'appelle Stéphane Fuenquinos, j'ai 49 ans, je suis scénariste et réalisateur, entre autres des films La Délicatesse, avec mon frère David, et De Jalouse dernièrement. Et pendant 20 ans, j'ai exercé la profession de directeur de casting dans le cinéma. J'ai l'impression que ce qui s'est passé après Weinstein n'a fait que soulever un couvercle qui était évidemment déjà un peu amorcé. Notre société, de toute façon, était complètement engoncée dans ce non-dit. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas donner des circonstances atténuantes au talent quand il est matiné de harcèlement, par exemple. C'est à nous de changer notre regard et à changer notre discours et à faire attention aux gens que l'on honore.
Faisons une sorte de bilan assez comptable de cette affaire Weinstein. Des accusations en cours d'études sont portées contre Luc Besson et Gérard Depardieu. Woody Allen, avec qui vous avez travaillé, met sa carrière entre parenthèses. Là, il annonce ça désormais. Est-ce que pour vous, ça fait partie d'un bilan de cette affaire Weinstein ou pas?
Je crois que de la même manière qu'on est aussi une profession assez secrète malgré tout et un pays qui n'a jamais voulu rentrer dans les mêmes codes que tout le monde, le secret qui existait entre guillemets de certaines affaires ou de certaines histoires, aujourd'hui il existe, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de la publicité autour de ça, mais je crois que les comportements change radicalement au quotidien. Je me suis retrouvé sur des plateaux où un metteur en scène qui disait un bon mot à une actrice et puis après tout de suite il se rattrapait en disant « c'est une plaisanterie ». Ces choses-là n'auraient pas eu lieu, je pense, avant un an. Donc au quotidien, il y a cette prise de conscience et surtout, on le voit maintenant dans les sujets qui vont être abordés au cinéma, dans le fait que les gens révisent leurs scénarios. Je suis aussi au CNC, au Centre National de la Cinématographie, pour la commission des films. Benoît Jacquot qui fait un film sur Casanova avec Vincent Lindon. C'est vrai qu'arriver aujourd'hui en faisant un film sur Casanova avec Vincent Lindon, ça peut paraître quasiment provocateur, mais il expliquait très très bien. En fait, je vais raconter aujourd'hui le premier râteau de Casanova. Et je pense que son discours, il a dû l'adapter aussi à l'époque, enfin au fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas impunément raconter l'histoire d'un garçon qui va se balader en essayant de multiplier les conquêtes, encore une fois, même si c'est historique, même si c'est basé sur la vie de Casanova et sur l'histoire de sa vie qui est magnifique. Donc voilà, je sais qu'il était très conscient de ça, par exemple. Est-ce que c'est un discours qu'il aurait eu il y a 4-5 ans? Peut-être pas. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, est nouveau. C'est peut-être moins concret que ce qu'on imagine, mais par petites touches, ça arrive.
Pop-opienne, pop-opien et tous les autres aussi, bonjour.
Antoine Decaune est cinéaste, animateur télé et producteur de l'émission Pop-op-op sur France Inter. Quand il lit les propos de sa fille Emma, actrice dans le New Yorker contre Weinstein, il réagit le 11 octobre 2017 en ouverture de son émission.
Il y a toutefois une différence entre les acteurs et les actrices. Ces dernières, et ma fille en est donc une, sont en plus, comme la plupart des femmes dans le monde où nous vivons, et peut-être davantage encore dans le monde du spectacle, souvent victimes d'hommes de pouvoir, prédateurs sexuels qui abusent de leur position, et parfois des femmes tout court. Mais il arrive que ces femmes se rebiffent et rendent public de tels agissements. C'est ce que vient de faire ma fille, en même temps Cassia Argento, Angelina Jolie, Judith Godrèche, Rosanna Arquette et plein d'autres, en dévoilant les turpitudes d'un tout-puissant producteur hollywoodien, ce gros porc puant d'Harvey Weinstein, pour bien le nommer.
Et je suis très fier de ma fille pour dans l'affaire Weinstein, quand elle a réagi à la suite de Asia Argento, parce qu'il faut du courage pour y aller. Donc j'étais très fier qu'elle pose ça sur la table, avec les conséquences que ça peut avoir, et qu'elle dise voilà, maintenant c'est fini. Et je pense que ça ne bougera qu'à partir du moment où un maximum de femmes auront cette attitude-là. Moi, ce dont j'ai été très très étonné dans l'après-MeToo et au moment des Césars, c'est qu'il n'y ait pas plus de ramdam au César, comme si la France était un pays épargné par ce genre de pratique. Ce qui n'est évidemment pas le cas. Simplement, on a un rapport ici au sexe, à la séduction, qui est très latin, ce qui ne passe plus dans les pays anglo-saxons, continue à survivre ici, pour des raisons qui vraiment, je pense que ça prendra du temps, quoi, parce que il faut changer les mentalités, il faut changer le rapport, quoi, simplement le rapport homme-femme. Je pense que ça sera l'histoire d'une génération, mais avec ce qui, au moins une génération, mais avec ce qui s'est passé là, je suis plutôt confiant dans l'idée que ça va aller vers le mieux.
Okay. Bande-annonce de la cérémonie des Césars 2018, présentée par le comédien Manu Payet.
Ok, je vais présenter les Césars, mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une bande-annonce simple, où je vais dire des trucs simples, parce que je kiffe trop son. Simple, basique. Ok, les Césars sont des trophées qui récompensent le cinéma français. Simple, les nommés disent qu'ils s'en foutent, mais s'ils l'ont pas, ils sont dégoûtés. Basique. Oui, on dit nommé. Tout le monde croit qu'on dit nominé. Simple. Quand je pense que l'année dernière, j'étais sur mon canapé. Basique. Une actrice qui passe des essais n'est pas obligée de se dessaper. Simple. Les producteurs de ciné ne sont pas tous des porages tagués. Basique.
Interception. France Inter.
C'est une jeune comédienne de 22 ans qui a déposé plainte lundi dernier, le 27 août, donc à Lambesque, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Cette jeune comédienne travaillait avec Gérard Depardieu.
Dominique Besnéard a été très longtemps agent d'acteur et d'actrice. Lorsqu'une plainte pour viol et agression sexuelle a été déposée contre Gérard Depardieu, il écrit ceci sur sa page Facebook le 30 août dernier. À quel moment ces apprenties comédiennes arrivistes vont-elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître ? Pour Dominique Besnéard, MeToo, c'est bien, mais il exprime des réserves.
Alors, l'évolution par rapport à un an, par rapport au comportement des hommes de ce métier par rapport aux femmes, bah, c'est pas mal s'ils font un peu gaffe, parce qu'il y a quelquefois peut-être des producteurs ou des cinéastes qui sont quelquefois mal, un peu irrévérencieux. Que moi, dans mon expérience personnelle, franchement, moi j'ai été plus de 20 ans agent. Et j'avais vraiment beaucoup d'actrices, parce que moi j'ai toujours préféré avoir des actrices que des acteurs. Eh bien, rarement j'ai eu d'écho ou une actrice qui est venue pleurer dans mon bureau en disant ce metteur en scène m'a... Parce que moi, je n'avais pas que des stars, bien sûr, Sophie Marceau, Béatrice Dalle ou Sandrine Bonnaire, on les traite peut-être pas comme une jeune comédienne. Mais il y a eu très peu, il y a eu très peu. Les quelques échos que j'ai eus, c'était plutôt un scénariste dont je tairai le nom, le Porcelain est mort, qui lui a fait du harcèlement. Et à ce moment-là, moi, je l'ai appelé, je dis maintenant, tu vas arrêter, sinon c'est très grave, je supporte pas ça. Mais sinon, il n'y en a pas eu beaucoup. Weinstein, c'est un prédateur, heureusement, il n'y a pas énormément de prédateurs, ça serait dramatique, cela dit, dans Hollywood. Hein. Moi, je viens de lire les souvenirs de Heidi Lamar, je peux vous dire que c'était compliqué pour les actrices des studios. Hein. C'était... Elles étaient souvent harcelées et sans dire, alors je ne sais pas, je ne suis pas là pour le, mais Hitchcock, qui quelquefois était un peu, quand on lit les souvenirs de Tippi Hedren, je veux dire, donc voilà. Mais peut-être à un niveau plus de un peu la main baladeuse, mais de là à dire, si vous couchez pas avec moi, tu n'as pas le film, comme Weinstein a fait, c'est quand même pas très courant dans notre métier. Et Anouk Aimée m'a dit une chose, quand elle était jeune comédienne, il y avait deux producteurs qui s'appelaient les frères Hakim, alors je sais pas, il y en avait un qui était plus dragueur que l'autre, il lui a mis la main sur le genou, elle lui dit non stop, il a retiré sa main, et le lendemain il lui a envoyé des fleurs. Bon, mais il y a aussi, faut pas non plus que tout d'un coup... On est peur de d'être en face d'un homme, je veux dire, vous risquez rien en face de moi, mais il y a un moment donné, ça peut être, c'est ça, moi je suis contre ça. Il faut pas devenir anti-homme, hein. Et d'autant plus que moi, mon orientation sexuelle fait que je défends les hommes là-dessus, faut arrêter, hein. Maintenant c'est Gérard Depardieu, ça a été Philippe Cobert, Luc Besson, bon, ça je, mais par exemple, Cobert, quand on lit les déclarations, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était une fille qui faisait un livre sur lui, qui la connaissait, il avait une histoire avec, enfin peut-être une fille qui était en admiration devant lui. Voilà, c'est compliqué. J'ai horreur de que quand on dit des choses qui sont fausses. Je dis pas que ça n'existe pas, mais de dire que les producteurs français ou les metteurs en français, un sur trois est un prédateur, ça je n'accepte pas. Faut faire attention aussi, parce qu'un homme qui aime les femmes maintenant, il faut faire attention. S'il dit vous êtes belle et j'ai envie de vous filmer, et s'il ne l'apprend pas à l'arrivée parce qu'il a trouvé une actrice plus intéressante pour le rôle, elle va dire il m'a fait une approche.
Aux États-Unis, on a des grandes déclarations de femmes à la tribune au festival de Sundance. Et en France, on a la tribune de Catherine Deneuve qui nous explique qu'il faut se laisser importuner.
Non, parce qu'elle ne dit pas ça du tout. Catherine Deneuve, elle dit un peu la même chose que moi, où je me permets de suivre la vie de Catherine Deneuve. Voilà, elle parle de ce que je dis, l'état de grâce entre un metteur en scène et une actrice, et la séduction d'un metteur en scène avec une actrice. Respecter les femmes, c'est penser aussi que elles peuvent décider si elles sont draguées, pas draguées, si quelqu'un leur manque de respect ou pas. Elles sont assez fortes pour décider elles-mêmes.
Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de ce 44e Festival du cinéma américain de Deauville. Welcome to this opening ceremony of the 44th American Film Festival in Deauville.
Je suis Bruno Barne, directeur du Public System Cinema, société qui organise et produit le Festival du cinéma américain de Deauville, le Festival de Gérard Armey et le Festival de Beaune, qui est un festival du film policier.
1998, Festival du film américain de Deauville.
Bonsoir à vous tous, je suis venue exprès parce que Armey est là ce soir.
Moi j'ai rendu hommage, parce qu'on rend hommage aux producteurs à Deauville, j'ai rendu hommage à Harvey Weinstein, c'est même Juliette Binoche qui est venue lui rendre hommage, il y a au moins une dizaine d'années.
Voilà.
Qui savait? Vous saviez, vous, que Harvey Weinstein, il se conduisait comme ça?
Il paraît que dans le cinéma, tout le monde le savait, quand même. Hein.
Ah, écoutez, moi, honnêtement, pas, parce que j'interroge pas les gens sur leur libido et sur leur vie, je les interroge sur leur vie professionnelle. J'ai reçu Harvey Weinstein, producteur adulé par le monde entier et par la profession, parce qu'avec Miramax, ils ont beaucoup travaillé pour le cinéma indépendant, et j'ai rendu hommage à l'homme. Surtout, je n'anticipe pas sur la justice.
Cette année, vous rendez un hommage à Morgan Freeman, qui lui-même a été, il y a quelques mois, sous le feu de l'actualité, parce que plusieurs personnes...
L'actualité n'est pas la justice, madame.
Alors, je finis juste ma phrase, après je vous laisse répondre, bien sûr. Parce que, donc, plusieurs femmes l'accusent, en tout cas publiquement, de les avoir agressées sexuellement. Est-ce que vous vous êtes, à un moment donné, posé des questions sur le fait de, oui ou non, rendre hommage à Morgan Freeman?
Aucune. Tant que la justice ne se prononce pas, et vous allez voir que l'enquête va sans doute révéler. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas, mais moi, quand j'invite un comédien qui a fait plus de 120 films, qui a une notoriété, qui n'a jamais eu de problème depuis 60 ans qu'il fait ce métier, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment et qu'il faut faire confiance à la justice, attendre la justice pour prendre des décisions. Voilà, c'est comme l'affaire Depardieu. Moi, j'en sais rien, vous comprenez. Si Depardieu vient au jury, je ne vais pas l'interdire. Je ne sais pas, j'attends la justice. Ce que vous appelez des accusations, ce sont des allégations. C'est-à-dire que ça peut être de la calomnie, ça peut être faux. Moi, tant que les choses ne sont pas prouvées, elles n'existent pas.
Bon, mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus.
Merci à vous et je n'ai pas de langue de bois comme vous pouvez le voir.
Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux
a plus de 50 ans.
Une femme majeure sur deux a plus de 50 ans.
Et dans les fictions,
au cinéma,
à la télévision,
au théâtre,
elles sont où?
Elles sont où?
Elles sont où?
Eh, elles sont où?
Elles sont où?
Moi, je m'appelle Catherine Pifaretti et je suis comédienne. Je fais partie d'une association qui s'appelle AAFA, Actrices et Acteurs de France Associés, au sein de laquelle une actrice du nom de Marina Thomé a fondé une commission qui se nomme Tunnel de la comédienne de 50 ans. Au sein de cette commission, on essaye de lutter contre la disparition des femmes de plus de 50 ans des images, en gros. Alors si j'ai bien compris, vous êtes en train de fabriquer une émission sur après Weinstein, qu'est-ce qui se passe? A priori, nous n'avons plus le problème Weinstein. Bah oui, mais non, en fait, c'est les deux faces de la même médaille. C'est-à-dire que c'est le même phénomène sexiste qui utilise les jeunes comédiennes comme des objets dans les films, soit belles, soit désirables, et qui, tout d'un coup, les invisibilise, les font disparaître des images quand elles atteignent cet âge fatidique, visiblement, pour une femme de 50 ans. On commence sa carrière jeune femme, donc on va avoir des rôles de jeune femme, de jeune fille, et puis après, on va vous attribuer des rôles de femme, donc généralement, on devient la maîtresse. Puis, on va devenir l'épouse. Ensuite, on est la mère des enfants adolescents. Et tout d'un coup, on n'est plus rien. C'est-à-dire qu'on ne vous appelle plus. Et là, on se dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, il y a toujours une remise en question personnelle d'abord qui arrive. On se dit, c'est moi, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais plus faire. Et puis en fait, en interrogeant les copines autour de soi, on se rend compte que c'est toutes les copines qui ne vont pas. Le truc, c'est qu'on est sexué, alors que les hommes ne le sont pas forcément. C'est-à-dire qu'on est toujours vu au travers de notre fonction reproductrice. Alors, on va pas se voiler la face, 50 ans, c'est quoi? C'est la ménopause. C'est-à-dire, si nous, ça nous pose pas de problème, visiblement, ça pose un problème à la société. On a compté les rôles donnés à des comédiennes de plus de 50 ans sur les films français sortis en 2016. Aujourd'hui, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans. C'est quand même beaucoup. Ça représente plus d'un quart de la population totale majeure, hommes-femmes confondus. C'est énorme. Et dans les films en 2016, le résultat auquel nous sommes arrivés, donc 8%. On a recompté l'année suivante. En 2017, c'est encore pire, c'est 6%. Alors, le cinéma n'a pas vocation de refléter la réalité, on est bien d'accord. Le cinéma fait ce qu'il veut, c'est une œuvre. Bon. Mais il y a quand même une responsabilité. Parce que qu'on le veuille ou non, les fictions, elles transportent des normes, elles transportent des valeurs. C'est-à-dire qu'elles participent à ce qu'on appelle l'inconscient collectif. C'est-à-dire quel modèle vont avoir nos filles, nos enfants, de manière générale, nos filles comme nos garçons, pour se construire.
Est-ce que le phénomène MeToo, la libération de la parole, toutes les faits médiatiques qu'a eu le scandale Weinstein, est-ce que ça vous a aidé ou pas?
C'est en train, hein, on est en train. MeToo, c'est en train de bouger. C'est maintenant que ça commence à bouger. Là, on a entendu Audiard. Enfin, la profession commence à se positionner, vraiment, par rapport à ça. Je suis pas sûre qu'on puisse tout de suite en tirer les conséquences. J'ai plus l'impression que c'est l'écoute qui est en train de se libérer. Donc ça, c'est bien. Plus on sera écouté, mieux ça sera. En ça, MeToo, c'est bien. Maintenant, on est encore loin du compte. Hein. Voilà, 6%.
Yo declaro oficialmente aperta la 75ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Andiamo!
Septembre 2018.
Ça fait à peu près 25 ans que mes films sont dans les festivals.
Jacques Audiard.
J'ai vu l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. J'ai pas vu de femmes à la tête des festivals. J'en fais juste une affaire d'égalité et de justice. L'égalité, ça se compte. La justice, ça s'applique. Voilà. Non! Non, on n'applaudit pas, on agit.
En coulisses aussi, la parité est loin d'être respectée. Un premier pas vient d'être franchi. La ministre de la Culture a annoncé un bonus de 15% dans les subventions pour les films dont les équipes comporteront des femmes à des postes clés.
Ok, on y va, grand cercle, s'il vous plaît. Hop.
En cette fin de matinée, nous sommes dans un petit théâtre du 19e arrondissement de Paris avec les élèves de première année du cours Florent.
Moi j'ai 18 ans, j'en ai 21.
Mathilde, comment tu vois le mouvement MeToo par rapport au métier que tu veux faire peut-être demain?
Ben, moi je l'ai trouvé très bénéfique pour beaucoup de choses. Après effectivement, ça m'a aussi fait peur. Parce que j'ai aussi pris conscience que le métier que je voulais faire n'était pas tout rose et qu'il allait falloir que je fasse attention à moi et puis que j'allais devoir poser des limites et puis savoir où est-ce qu'elles se trouvent. Après, effectivement, je connais des personnes qui ont eu des problèmes par rapport à ça et ça ne les a pas non plus beaucoup aidées, le hashtag, parce qu'elles ont eu peur d'être jugées, elles ont eu peur d'être mal reçues par les personnes avec qui... contre qui elle se plaignait, par les enseignants ou par la police, simplement. Donc, il y a encore énormément de travail à faire, mais je pense que c'est un pied à l'étrier pour la suite.
Et vos parents?
Ça, c'est sûr que, par exemple, mon père, il est un petit peu stressé par rapport à ça, évidemment, parce qu'il est protecteur. Mais il sait aussi que je saurais, moi, mettre les limites et puis me débrouiller. Et il ne m'a pas spécialement briefé, il m'a juste dit que j'étais suffisamment intelligente pour voir où est-ce que je pouvais m'arrêter.
Est-ce que... les témoignages qui sont sortis il y a un an et ensuite qui ont continué de ces stars, est-ce que ça a eu de l'influence sur les jeunes qui veulent aujourd'hui entrer dans le milieu du spectacle? Par exemple, Lola.
Moi, j'ai plus envie de les remercier puisque j'ai l'impression que c'est une protection pour notre génération.
puisqu'on a été avertis de tout ça. Et au moins, ça a permis que certaines personnes prennent conscience de ce qui se passe réellement. Et je les remercie pour ça.
Bonsoir. C'est bien sûr une année très triste pour le cinéma. Et en même temps, il faut se réjouir, bien sûr, il faut se réjouir parce que dorénavant, je crois que c'est clair pour tout le monde, les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Et par contre, il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il va falloir clarifier, je pense, assez vite. C'est est-ce que nous, on a encore le droit de coucher pour avoir les rôles? Parce que c'est-à-dire que... Parce que si on n'a plus le droit, alors il faudra apprendre des textes, il faudra passer des castings et on n'a pas le temps.
C'est tout le talent de l'humoriste Blanche Gardin d'arriver à nous faire rire sur ce sujet difficile. Dans le sillage de l'affaire Weinstein, les plaintes pour violences sexuelles en France ont augmenté de 12% au dernier trimestre 2017. Mais selon une étude du ministère de la Justice, 70% de ces plaintes sont classées sans suite, faute de preuves suffisantes ou parce que le non-consentement des victimes est difficile à établir. L'impossible MeToo du cinéma français, c'était un reportage de Valérie Cantier et Christine Siméon, prise de son Laurent Lucas, Marcos Daras et Gilles Gallinaro, réalisation Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. Une émission à retrouver sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. À la semaine prochaine.